Le lendemain et pendant les premiers jours de septembre, on ne revit plus Aristobulus sur Cyclo. Avait-il quitté Iona par le bateau des touristes après avoir compris qu'il perdait son temps près de Miss Campbell? Personne n'aurait pu le dire. En tout cas, il faisait bien de ne pas se montrer. Ce n'était plus seulement de l'indifférence, c'était une sorte d'aversion qui l'inspirait à la jeune fille. Avoir dépoétisé son rayon, avoir matérialisé son rêve, avoir changé l'écharpe d'une valkyrie en un brutal phénomène d'optique, peut-être lui eût-elle tout pardonné, tout, excepté cela. Les frères Melville n'eurent pas même la permission d'aller s'enquérir de ce que devenait Aristobulus sur Cyclo. À quoi bon d'ailleurs? Qu'aurait-il pu lui dire et qu'espérait-il encore? Pouvait-il songer désormais à l'union projetée entre deux êtres aussi antipathiques, séparés par l'abîme qui se creuse entre la vulgaire prose et la sublime poésie, l'un avec sa manie de tout réduire à des formules scientifiques, l'autre ne vivant que dans l'idéal qui dédaigne les causes et se contente des impressions? Cependant, Partridge, poussé par Dame Bess, apprit que ce jeune vieux savant, ainsi qu'il le dénommait, n'avait point encore effectué son départ et qu'il habitait toujours sa cabane de pêcheur où il prenait solitairement ses repas. En tout cas, l'important, c'est qu'on ne voyait plus Aristobulus Ursiclo. La vérité est que lorsqu'il ne se confinait pas dans sa chambre, occupé sans doute de quelque haute spéculation scientifique, il s'en allait, son fusil sur le dos, à travers les basses grèves du littoral, et là, sa mauvaise humeur se passait au milieu d'un véritable carnage de harles noirs ou de mouettes qui n'y étaient pour rien. Conservait-il donc encore quelque espoir? Se disait-il que la fantaisie du rayon vert, une fois satisfaite, Miss Campbell reviendrait à de meilleurs sentiments? C'est possible, après tout, étant donné sa personnalité. Mais il lui arriva un jour une aventure assez désagréable, qui aurait pu très mal finir pour lui sans l'intervention aussi généreuse qu'inattendue de son rival. C'était dans l'après-midi du 2 septembre. Aristobulus Ursiclo était allé étudier les roches qui forment l'extrême pointe méridionale d'Iona. Une de ces masses granitiques, un stack, attira plus spécialement son attention, si bien qu'il résolut de se hisser à son sommet. Or, il y avait quelque imprudence à le tenter, car la roche ne présentait guère que des surfaces glissantes et le pied ne pouvait y trouver prise. Cependant, Aristobulus Ursiclo ne voulut point en avoir le démenti, il commença donc à grimper le long des parois en s'aidant de quelques touffes végétales qui poussaient çà et là et il put atteindre, non sans peine, le sommet de ce stack. Une fois là, il se livra à son petit travail habituel de minéralogiste. Mais quand il voulut redescendre, cela devint plus difficile. En effet, après avoir soigneusement cherché sur quel côté de la paroi il convenait de se laisser glisser, le voilà qui se risque. À cet instant, le pied vint à lui manquer. Il dévala sans pouvoir se retenir et fut tombé dans les violentes lames du ressac si une souche brisée ne l'eût retenu au milieu de sa chute. Aristobulus Ursiclo se trouvait donc dans une situation tout à la fois dangereuse et ridicule. Il ne pouvait plus remonter, mais il ne pouvait plus redescendre. Une heure se passa ainsi. Et on ne sait ce qui serait arrivé si Olivier Sinclair, son havresac de peintre sur le dos, n'eût passé en ce moment et en cet endroit. Il entendit des cris, il s'arrêta. De voir Aristobulus Ursiclo accroché à 30 pieds en l'air, s'agitant comme un de ces bonshommes d'osier suspendus à la devanture d'une taverne, cela lui prêta d'abord à rire. Mais ainsi qu'on le pense bien, il n'hésita pas à se risquer pour le tirer de là. Cela ne se fit pas sans peine. Olivier Sinclair dut monter sur le sommet du stack et il lui fallut rehisser le pendu pour l'aider à redescendre de l'autre côté. « Monsieur Sinclair, » dit Aristobulus Ursiclo, dès qu'il fut en lieu sûr, « j'avais mal calculé l'angle d'inclinaison. Que faisait cette paroi avec la verticale? De là ce glissement et cette suspension. » « Monsieur Ursiclo, » répondit Olivier Sinclair, « je suis heureux que le hasard m'ait permis de vous venir en aide. Laissez-moi pourtant vous remercier. Cela n'en vaut pas la peine, monsieur. Vous en auriez certainement fait autant pour moi. » Sans doute. Eh bien, à charge de revanche. Et les deux jeunes gens se séparèrent. Olivier Sinclair ne crut point devoir parler de cet incident qui n'avait pas autrement d'importance. Quant à Aristobulus Ursiclo, il n'en parla pas davantage, mais au fond, comme il tenait beaucoup à sa peau, il sut gré à son rival de l'avoir tiré de ce mauvais pas. Eh bien, et le fameux rayon? Il faut convenir qu'il se faisait singulièrement prier. Cependant, il n'y avait plus de temps à perdre. La saison d'automne ne pouvait tarder à recouvrir le ciel de son voile de brume. Alors, plus de ces soirées limpides, dont septembre se montre si avare sous les latitudes élevées, plus de ces horizons nets qui semblent plutôt tracés par le compas d'un géomètre que par le pinceau d'un artiste. Faudrait-il donc renoncer à voir le phénomène, cause de tant de déplacements? Serait-on obligé de remettre l'observation à l'année prochaine ou s'entêterait-on à la poursuivre sous d'autres cieux? En vérité, c'était une cause de dépit pour Miss Campbell. Autant que pour Olivier Sinclair. Tous deux enrageaient très sérieusement à voir l'horizon des Hébrides obscurci sous les vapeurs de la haute mer. Ce fut ainsi pendant les quatre premiers jours de ce brumeux mois de septembre. Chaque soir, Miss Campbell, Olivier Sinclair, le frère Sam, le frère Sib, Dame Bess et Patridge, assis sur quelques roches que baignaient les petites ondulations de la marée, assistaient consciencieusement au coucher du soleil sur d'admirables fonds de lumière, plus splendides sans doute que si la pureté du ciel eût été parfaite. Un artiste aurait battu des mains devant ces magnifiques apothéoses qui se développaient à la chute du jour, devant cette éblouissante gamme de couleurs se dégradant d'un nuage à l'autre depuis le violet du zénith jusqu'au rouge d'or de l'horizon, devant cette éblouissante cascade de feu rebondissant sur des roches aériennes. Mais ici, les roches étaient des nuages, et ces images mordant le disque solaire absorbaient avec ses derniers rayons celui que cherchait en vain l'œil des observateurs. Alors, l'astre couché, tous se relevaient désappointés comme les spectateurs d'une féerie dont le dernier effet a manqué par la faute d'un machiniste. Puis, prenant par le plus long, ils rentraient à l'auberge des armes de Duncan. « À demain !» disait Miss Campbell. « À demain !» répondaient les deux oncles. « Nous avons comme un pressentiment que demain... » Et tous les soirs, les frères Melville avaient un pressentiment qui finissait invariablement par un mécompte.